France Culture. Les nuits de France Culture.
En 1966, pour les auditeurs de France Culture, Roger Blin lisait Sylvie de Gérard de Nerval dans 4 numéros de l'émission Le Livre de Chevet. Sylvie, une nouvelle publiée tout d'abord dans la Revue des Deux Mondes en 1853, avant de l'être l'année suivante avec 7 autres nouvelles et les 12 sonnets des Chimères dans le recueil Les Filles du Feu. De cette lecture de Sylvie, nous écoutons maintenant la première partie, diffusée le 1er mars 1966 sur France Culture.
Le livre de chevet. Roger Blin lit ce soir Sylvie de Gérard de Nerval. Une émission de Jean-Vincent Bréchignac.
Je sortais d'un théâtre où tous les soirs je paraissais aux avant-scènes en grande tenue de soupirant. Quelquefois tout était plein, quelquefois tout était vide. Peu m'importait d'arrêter mes regards sur un parterre peuplé seulement d'une trentaine d'amateurs forcés, sur des loges garnies de bonnets ou de toilettes surannées, ou bien de faire partie d'une salle animée et frémissante, couronnée à tous ses étages de toilettes fleuries, de bijoux étincelants et de visages radieux. Indifférent au spectacle de la salle, celui du théâtre ne m'arrêtait guère, excepté lorsqu'à la seconde ou à la troisième scène d'un maussade chef-d'œuvre d'alors, une apparition bien connue illuminait l'espace vide, rendant la vie d'un souffle et d'un mot à ces vaines figures qui m'entouraient. Je me sentais vivre en elle, et elle vivait pour moi seule. Son sourire me remplissait d'une béatitude infinie. La vibration de sa voix si douce et cependant fortement timbrée me faisait tressaillir de joie et d'amour. Elle avait pour moi toutes les perfections. Elle répondait à tous mes enthousiasmes, à tous mes caprices. Belle comme le jour au feu de la rampe qui l'éclairait d'en bas, pâle comme la nuit, quand la rampe baissée la laissait éclairer d'en haut, sous les rayons du lustre, et la montrait plus naturelle, brillant dans l'ombre de sa seule beauté, comme les heures divines qui se découpent, avec une étoile au front, sur les fronts bruns des fresques d'Herculanum. Depuis un an, je n'avais pas encore songé à m'informer de ce qu'elle pouvait être d'ailleurs. Je craignais de troubler le miroir magique qui me renvoyait son image. Et tout au plus avais-je prêté l'oreille à quelques propos concernant non plus l'actrice, mais la femme. Je m'en informais aussi peu que des bruits qui ont pu courir sur la princesse d'Élide ou sur la reine de Trébizonde. Un de mes oncles, qui avait vécu dans les avant-dernières années du XVIIIe siècle, comme il fallait y vivre pour le bien connaître, m'ayant prévenu de bonne heure que les actrices n'étaient pas des femmes et que la nature avait oublié de leur faire un cœur. Il parlait de celle de ce temps-là, sans doute. Mais il m'avait raconté tant d'histoires de ses illusions, de ses déceptions, et montré tant de portraits sur ivoire, médaillons charmants qu'il utilisait depuis à parer des tabatières, tant de billets jaunis, tant de faveurs fanées, en me faisant l'histoire et le compte définitif, que je m'étais habitué à penser mal de toutes, sans tenir compte de l'ordre des temps. Nous vivions alors dans une époque étrange, comme celle qui d'ordinaire succède aux révolutions, aux abaissements des grands règnes. Ce n'était plus la galanterie héroïque comme sous la Fronde, le vice élégant et paré comme sous la Régence, le scepticisme et les folles orgies du Directoire. C'était un mélange d'activité, d'hésitation et de paresse, d'utopie brillante, d'aspiration philosophique ou religieuse, d'enthousiasme vague, mêlé de certains instincts de renaissance, d'ennui des discordes passés, d'espoirs incertains, quelque chose comme l'époque de Pérégrinus et d'Apulée. L'homme matériel aspirait au bouquet de roses qui devait le régénérer par les mains de la belle Isis. La déesse éternellement jeune et pure nous apparaissait dans les nuits et nous faisait honte de nos heures de jour perdues. L'ambition n'était cependant pas de notre âge, et la vie de curé qui se faisait alors des positions et des honneurs nous éloignait les sphères d'activité possible. Il ne nous restait pour asile que cette tour d'ivoire des poètes, où nous montions toujours plus haut pour nous isoler de la foule. À ces points élevés où nous guidaient nos maîtres, nous respirions enfin l'air pur des solitudes. Nous buvions l'oubli dans la coupe d'or des légendes. Nous étions ivres de poésie et d'amour. Amour, hélas, de formes vagues, de teintes roses et bleues, des fantômes métaphysiques. Vu de près, la femme réelle révoltait notre ingénuité. Il fallait qu'elle apparût reine ou déesse, et surtout n'en pas approcher. Quelques-uns d'entre nous, néanmoins, prisaient peu ces paradoxes platoniques, et à travers nos rêves renouvelés d'Alexandrie, agitaient parfois la torche des dieux souterrains qui éclairait l'ombre un instant de ces traînées d'étincelles. C'est ainsi que, sortant du théâtre avec l'amère tristesse que laisse un songe évanoui, j'allais volontiers me joindre à la société d'un cercle où l'on soupait en grand nombre et où toute mélancolie cédait devant la verve intarissable de quelques esprits éclatants, vifs, orageux, sublimes parfois, tels qu'ils s'en est trouvés toujours dans les époques de rénovation ou de décadence, et dont les discussions se haussaient à ce point que les plus timides d'entre nous allaient voir parfois aux fenêtres si les Huns, les Turcomans ou les Cosaques n'arrivaient pas enfin pour couper court à ces arguments de rhéteurs et de sophistes. Buvons, aimons, c'est la sagesse. Telle était la seule opinion des plus jeunes. Un de ceux-là me dit « Voici bien longtemps que je te rencontre dans le même théâtre, et chaque fois que j'y vais, pour laquelle y viens-tu ? » Pour laquelle ? Il ne me semblait pas que l'on pût aller là pour une autre. Cependant, j'avouai un nom. « Eh bien, dit mon ami avec indulgence, tu vois là-bas l'homme heureux qui vient de la reconduire et qui, fidèle aux lois de notre cercle, n'ira la retrouver peut-être qu'après la nuit. » Sans trop d'émotion, je tournai les yeux vers le personnage indiqué. C'était un jeune homme correctement vêtu, d'une figure pâle et nerveuse, ayant des manières convenables et des yeux empreints de mélancolie et de douceur. Il jetait de l'or sur une table de whist et le perdait avec indifférence. « Que m'importe, dis-je, lui ou tout autre ? Il fallait qu'il y en eût un, et celui-là me paraît digne d'avoir été choisi. Et toi ?
Moi ?
C'est une image que je poursuis, rien de plus. » En sortant, je passai par la salle de lecture, et machinalement je regardai un journal. C'était, je crois, pour y voir le cours de la bourse. Dans les débris de mon opulence se trouvait une somme assez forte en titres étrangers. Le bruit avait couru que, négligés longtemps, ils allaient être reconnus, ce qui venait d'avoir lieu à la suite d'un changement de ministère. Les fonds se trouvaient déjà cotés très haut. Je redevenais riche. Une seule pensée résulta de ce changement de situation. Celle que la femme aimée si longtemps était à moi si je voulais. Je touchais du doigt mon idéal. N'était-ce pas une illusion encore, une faute d'impression railleuse ? Mais les autres feuilles parlaient d'eux-mêmes. La somme gagnée se dressa devant moi comme la statue d'or de Moloch. Que dirait maintenant, pensais-je, le jeune homme de tout à l'heure, si j'allais prendre sa place près de la femme qu'il a laissée seule ? Je frémis de cette pensée, et mon orgueil se révolta. Non, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas à mon âge que l'on tue l'amour avec de l'or. Je ne serai pas un corrupteur. D'ailleurs, ceci est une idée d'un autre temps. Qui me dit aussi que cette femme soit vénale ? Mon regard parcourait vaguement le journal que je tenais encore, et j'y lus ces deux lignes. Fête du bouquet provincial. Demain, les archers de Senlis doivent rendre le bouquet à ceux de Loisy. Ces mots, fort simples, réveillèrent en moi toute une nouvelle série d'impressions. C'était un souvenir de la province depuis longtemps oublié, un écho lointain des fêtes naïves de la jeunesse. Le cor et le tambour résonnaient au loin dans les hameaux et dans les bois. Les jeunes filles tressaient des guirlandes et assortissaient en chantant des bouquets ornés de rubans. Un lourd chariot traîné par des bœufs recevait ses présents sur son passage, et nous, enfants de ces contrées, nous formions le cortège avec nos arcs et nos flèches, nous décorant du titre de chevalier, sans savoir alors que nous ne faisions que répéter d'âge en âge une fête druidique, survivante aux monarchies et aux religions nouvelles. Je regagnai mon lit, et je ne pus y trouver le repos. Plongé dans une demi-somnolence, toute ma jeunesse repassait en mes souvenirs. Cet état, où l'esprit résiste encore aux bizarres combinaisons du songe, permet souvent de voir se presser en quelques minutes les tableaux les plus saillants d'une longue période de vie. Je me représentais un château du temps de Henri IV, avec ses toits pointus couverts d'ardoises et sa face rougeâtre aux encoignures dentelées de pierre jaunie. Une grande place verte, encadrée d'ormes et de tilleuls, dont le soleil couchant perçait le feuillage de ses traits enflammés. Des jeunes filles dansaient en rond sur la pelouse, en chantant de vieux airs transmis par leur mère, et d'un français si naturellement pur que l'on s'en sentait bien exister dans ce vieux pays du Valois, où pendant plus de 1000 ans a battu le cœur de la France. J'étais le seul garçon dans cette ronde, où j'avais amené ma compagne toute jeune encore, Sylvie, une petite fille du hameau voisin, si vive et si fraîche, avec ses yeux noirs, son profil régulier et sa peau légèrement hâlée. Je n'aimais qu'elle, je ne voyais qu'elle jusque-là. À peine avais-je remarqué dans la ronde où nous dansions une blonde, grande et belle, qu'on appelait Adrienne. Tout d'un coup, suivant les règles de la danse, Adrienne se trouva placée seule avec moi au milieu du cercle. Nos tailles étaient pareilles. On nous dit de nous embrasser, et la danse et le cœur tournaient plus vivement que jamais. En lui donnant ce baiser, je ne pus m'empêcher de lui presser la main. Les longs anneaux roulés de ses cheveux d'or effleuraient mes joues. De ce moment, un trouble inconnu s'empara de moi. La belle devait chanter pour avoir le droit de rentrer dans la danse. On s'assit autour d'elle, et aussitôt, d'une voix fraîche et pénétrante, légèrement voilée, comme celle des filles de ces pays brumeux, elle chanta une de ces anciennes romances pleines de mélancolie et d'amour, qui racontent toujours les malheurs d'une princesse enfermée dans sa tour par la volonté d'un père qui la punit d'avoir aimé. La mélodie se terminait à chaque stance par ces trilles chevrotants que font valoir si bien les voix jeunes, quand elles imitent par un frisson modulé la voix tremblante des aïeuls. À mesure qu'elle chantait, l'ombre descendait des grands arbres, et le clair de lune naissant tombait sur elle seule, isolée dans notre cercle attentif. Elle se tut, et personne n'osa rompre le silence. La pelouse était couverte de faibles vapeurs condensées qui déroulaient leurs blancs flocons sur les pointes des herbes. Nous pensions être en paradis. Je me levai enfin, courant au parterre du château où se trouvaient des lauriers plantés dans de grands vases de faïence peints en camaïeux. Je rapportai deux branches qui furent tressées en couronne et nouées d'un ruban. Je posai sur la tête d'Adrienne cet ornement, dont les feuilles lustrées éclataient sur ses cheveux blonds aux rayons pâles de la lune. Elle ressemblait à la Béatrice de Dante, qui sourit au poète errant sur la lisière des saintes demeures. Adrienne se leva. Développant sa taille élancée, elle nous fit un salut gracieux et rentra en courant dans le château. C'était, nous dit-on, la petite fille de l'un des descendants d'une famille alliée aux anciens rois de France. Le sang des Valois coulait dans ses veines. Pour ce jour de fête, on lui avait permis de se mêler à nos jeux. Nous ne devions plus la revoir, car le lendemain, elle repartit pour un couvent où elle était pensionnaire. Quand je revins près de Sylvie, je m'aperçus qu'elle pleurait. La couronne donnée par mes mains à la belle chanteuse était le sujet de ses larmes. Je lui offris d'en aller cueillir une autre, mais elle dit qu'elle n'y tenait nullement, ne la méritant pas. Je voulus en vain me défendre. Elle ne me dit plus un seul mot pendant que je la reconduisais chez ses parents. Rappelé moi-même à Paris pour y reprendre mes études, j'emportai cette double image d'une amitié tendre, tristement rompue, puis d'un amour impossible et vague, source de pensées douloureuses que la philosophie de collège était impuissante à calmer. La figure d'Adrienne resta seule triomphante, mirage de la gloire et de la beauté, adoucissant ou partageant les heures des sévères études. Aux vacances de l'année suivante, j'appris que cette belle à peine entrevue était consacrée par sa famille à la vie religieuse.
Roger Blin a lu ce soir Sylvie de Gérard de Nerval. C'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac, assistante de production, Janine Antoine.
C'était la première des quatre lectures par Roger Blin de Sylvie de Gérard de Nerval, diffusée le 1er mars 1966 sur France Culture. À suivre.